Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, l'interview du jour sur Radio Diwa, que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5 ou vous pouvez écouter aussi l'émission en podcast sur le site FM, sur le site www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous recevons
Jyrki Kiiskinen.
Donc, tu es poète en Finlande. Il y a une question qui me turlupine. Qu'est-ce qu'un poète en Finlande aujourd'hui ?
Je dirais que je suis un poète dans le monde. Mais j'habite en Finlande. Qu'est-ce que c'est d'être un poète dans le monde? C'est d'essayer, à travers de la langue, chercher de la liberté, chercher de nouvelles façons de regarder le monde. Et moi, je fais ça de temps en temps, de la façon un peu ludique par rapport à la forme.
Tu parles de quelle forme, par exemple? Tu parles bien de poésie et la forme d'une poésie?
Oui, par exemple, si on parle du recueil Aller-retour, en effet, c'est composé sur les poèmes en prose, des souvenirs très essentiels dans ma vie. Parce que je crois qu'on a tous une histoire de notre vie un peu pétrifiée. Et j'ai commencé à combiner ces poèmes en prose, ces souvenirs avec des autres poèmes, des commentaires sur ces souvenirs. J'ai recombiné mes souvenirs avec un contexte un peu inattendu et ça crée un espace particulier entre les poèmes.
Un espace nouveau aussi.
Oui, et je veux dire qu'en effet, toujours sur la page gauche, il y a un poème en prose du passé. Et toujours sur la page droite, il y a un poème en vers libre qui commente le souvenir du présent, souvent d'un point de vue plus ou moins politique ou comme ça, ce qui se passe entre les poèmes. Ça, c'est ce qui m'intéresse.
Est-ce que le regard d'un poète est un outil qui permet justement de pouvoir se repérer dans son écriture, le regard sur la société, sur ce qui l'entoure, ce qu'il en ressent? Est-ce que tout ça, c'est un outil, ce regard, cette réflexion qui vous amène à écrire vos textes? De quoi se nourrit ce regard, cette notion d'écrire, cette poésie? Est-ce que vous vous inspirez de textes antérieurs, certainement, d'auteurs contemporains ou anciens, et voire même antiques?
Oui, alors je trouve que ce qu'on appelle le regard d'un poète, c'est en effet de la sensibilité par rapport à la langue. Et pour moi, écrire, c'est aussi de la lecture. Que je lis pour m'inspirer et je fais en effet ma création, c'est plus ou moins que je passe la parole des autres d'une façon ou autre, alors que je cherche des outils chez les autres, que je me nourris avec ça. Et d'un seul coup, si je lis par exemple un poème qui a été écrit il y a 200 ans, ça peut me permettre de voir quelque chose dans le présent que je n'avais pas vu avant.
Oui, ça c'est la transmission du savoir et la sensibilité, elle est universelle, je crois. Et que ce soit des textes antiques ou d'aujourd'hui, la sensibilité est quasiment identique, je pense. Hein. L'évolution humaine est quand même très très longue dans l'échelle de la planète. Donc la poésie, c'est vraiment pratiquement un état embryonnaire encore au niveau de la civilisation aujourd'hui. Mmh.
Ce qui m'intéresse, c'est souvent, par exemple, les choses banales ou des choses aberrantes qui se passent dans le présent d'aujourd'hui. Et quand on les combine avec quelque chose par exemple avec la poésie de Pétrarque. Alors le conflit entre le passé et le présent, ça peut nous offrir les yeux.
Quelles sont les inspirations aujourd'hui qui te poussent à écrire? Bon, il y a des injustices, peut-être du désœuvrement ou un égarement d'une société, quelque chose comme ça qui peut t'inspirer, ou essayer de trouver un fil conducteur dans ton écriture par rapport à ce qui t'entoure.
Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est en effet le discours qui nous entoure, une espèce de manipulation répété, que par exemple notre ancien premier ministre, il a essayé de mettre le mot fantastique dans chaque phrase qu'il a utilisée. Alors j'ai pris cette manière dans un poème, j'ai utilisé le mot fantastique tout le temps dans le poème. Ça, c'est un exemple comment je peux utiliser la réalité qu'on vit pas tous les jours et le mettre dans la poésie.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux définir par le mot fantastique?
Alors que, en effet, si par exemple on ferme une école, on dit que c'est fantastique. À mon avis, c'est pas forcément fantastique, mais en répétant le mot fantastique, on commence à croire. Par exemple, si on dit que je suis un héros et je vais très bien quand ils m'ont coupé là le bras, alors je peux faire un peu de ma recherche privée, comment ça affecte l'esprit humain d'être entouré par ce langage.
Par des fous.
Pardon?
Par des fous. Je sais pas, moi, fou, c'est s'approprier quelque chose d'irrationnel et de le rendre réel. D'amener une idée de la réalité en s'inspirant de choses, de notions irrationnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas physiquement démontrables.
Alors, pour moi, c'est... en effet, quand j'ai écrit, par exemple, ce poème sur le mot fantastique, alors, bien sûr, j'essaie de chercher, au fond, comment je me sens vraiment. Quelle est mon expérience réelle qui est couverte par tout ce langage.
Tu parlais des auteurs qui t'ont peut-être inspiré. Quels sont ces auteurs? Est-ce qu'il y en a, par exemple, en France, qui t'ont beaucoup inspiré?
Oui, sûrement. Ça varie beaucoup. Je cherche des inspirations, des sens un peu différents, mais par exemple, qui je pourrais nommer, j'ai traduit, par exemple, Octavio Paz, c'est un poète mexicain, et il m'a inspiré beaucoup au début des années 90. Et c'est souvent par traduire des poètes que je incorpore un peu leur façon d'écrire et cherche mon point de vue à leur façon d'écrire. Et là, j'ai découvert la poésie de Christophe Tarkos, le français, et il m'a vraiment ébloui.
J'ai assisté à une de ses lectures il y a une vingtaine d'années. C'était dans un colloque de poètes qui était parrainé par Christian Prigent, je ne sais pas si vous connaissez, un auteur contemporain aussi. Il y a aussi Charles Penquin, c'est pour moi un grand poète aujourd'hui aussi, qui utilise le langage populaire et avec sa méchanceté et sa cruauté aussi, la cruauté humaine. Vis-à-vis des gens qui nous entourent, voilà. Tu parlais de Christophe Tarkos. En quoi tu te retrouves chez lui, par exemple?
Alors, j'aime bien sa façon d'utiliser la répétition, pour un peu déstabiliser la signification des mots. Et que, en effet, quand je, par exemple, quand j'ai parlé du poème fantastique, là, j'utilisais un peu ça pour montrer l'absurdité de ce langage.
Un langage qui est complètement, je dirais un langage aujourd'hui, par exemple, complètement corrompu par les médias.
Exactement.
La civilisation, la rue, parle comme les médias. Et inversement, les médias s'inspirent aussi de la rue. Donc, petit à petit, c'est, comment dire, une incompréhension qui s'instaure petit à petit dans le langage, parce que complètement codifié par une force médiatique qui ne se contrôle même plus, en fait.
Et en effet, en Finlande, les entreprises payent des sommes énormes pour les gens qui font des conférences avec leur personnel où ils parlent de l'héros à l'intérieur et de la pensée positive et tout ça. Et que c'est vraiment une industrie de l'esprit, on pourrait dire.
Oui, l'industrie. Est-ce que ça veut dire que si c'est l'industrie qui s'approprie le langage ou le discours, est-ce que nos pensées ne seront plus nos propriétés?
Oui, c'est exactement ça. Je crois qu'on commence à penser des pensées des autres. Mais le truc plus dangereux, là, c'est peut-être qu'on croit que c'est nos pensées.
Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont un peu dans ton mouvement enfin de réflexion, enfin, je ne sais pas si on peut dire un mouvement, mais qui sont un peu dans ta réflexion aujourd'hui? Est-ce que tu en reconnais bon, tu as cité Christophe Tarkos, mais aux États-Unis, est-ce qu'il y a des auteurs qui se sont déjà démarqués par rapport à ça aussi? Ou ailleurs, hein, je ne sais pas. Est-ce que vous vous joignez d'ailleurs est-ce qu'il y a une relation entre ces auteurs que vous êtes, ou ces poètes que vous êtes?
Alors, j'étais très intéressé par language poetry aux États-Unis, mais parce que je trouve que moi, j'ai la quête de l'intimité aussi. Et ça ne me convenait pas très bien, leur approche. Je suis un grand fan de Inger Christensen. C'est un poète danois qui travaille beaucoup, beaucoup de la forme. Et par exemple, ça m'intéresse beaucoup qu'elle utilise des formes anciennes pour l'expression moderne. Et c'est complètement naturel, c'est pas forcé.
Il y a une grammaire, c'est ça? Tu veux parler de la grammaire ancienne, la manière d'écrire une phrase ou un texte?
Elle utilise des formes des mathématiques, elle utilise le sonnet, comme ici, par exemple, Jacques Roubaud, il fait. Mais le sonnet, c'est très difficile en finnois parce que notre langue a toujours l'accent sur le premier syllabe. Et on devrait commencer le vers en sonnet avec un syllabe sans accent. Alors ça pose un petit problème pour nous.
Est-ce que tu pourrais nous citer un petit texte de ta part
En finnois?
Oui, bien sûr.
Ça c'est un poème inédit que je travaille ici, a dit: päämääriä tässä torilla, tässä elämässä pitää olla korkeampia päämääriä tässä torilla. Minä ajattelen joka päivä korkeampia päämääriä tässä elämässä. Minä sain sen, minkä halusin, korkeampia päämääriä tässä pitää olla, ajattelen. Tässä torilla sinä synnyt uudelleen, mies sanoo joka päivä tätä elämää korkeampia päämääriä. Minä ajattelen. Tässä torilla minä synnyn, joka päivä, mies sanoo, sinä synnyt tässä torilla uudelleen. Ja minä ajattelen, tässä se, mitä sinä halusit joka päivä. Tässä sinä synnyt, tässä minä ajattelen. Minä ajattelen elämää korkeampia päämääriä, tässä uudelleen. Tässä se, mitä halusit, tätä korkeampia päämääriä joka päivä uudelleen tässä torilla. Minä ajattelen joka päivä, minä ajattelen tässä.
Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ce qui t'a inspiré ce texte, par exemple, si ça a été rédigé dans le Diwa? Cette manière de lire, je la retrouve parmi les poètes français d'aujourd'hui, cette manière de débiter les mots sans ponctuation. Est-ce que c'est un reflet de la société qui va de plus en plus vite aussi?
Oui, c'est possible. Et par exemple, avant, maintenant mon style a changé beaucoup, mais avant j'écrivais des poèmes un peu fluides, comme ça, qui ressemblait un peu l'esthétique des vidéos de musique, par exemple. Une fluctuation des images. Et que je trouve que, quand j'ai pensé après, que ça reflétait alors l'esthétique visuelle qui nous entoure dans les médias.
Qu'est-ce qui marque le plus aujourd'hui quand on écoute un texte? C'est le sujet ou le verbe? Ou le complément d'objet direct?
Je trouve que le verbe domine seulement, c'est la poésie devient facilement un jeu un peu vide. Et si le contenu domine seulement, ça devient lourd. Mais s'il y a les deux en même temps, et il y a une espèce d'échange entre la forme et le contenu, ça peut nous emporter à quelque chose d'essentiel, je trouve.
En étant à Die depuis quelques jours, jusqu'au 10 octobre en résidence, quelle impression te fait ressentir le Diwa, le paysage de Die?
Oui, le paysage, c'est vraiment magnifique. Et je viens d'une ville de la Finlande du Sud où le paysage est complètement plat. Il y a des forêts énormes et il y a la mer. Alors qu'il y a l'archipel et la mer. Et là, j'adore le paysage des montagnes. Hier, j'ai déjà grimpé un peu pour essayer de voir toute la vallée. Oui, c'est formidable.
Mais est-ce que ça va t'amener à voir le paysage autrement aussi, par rapport au pays plat qu'est la Finlande, ou du moins la région? Je ne sais pas si... je pense que tu as voyagé à travers le monde, ou je ne sais pas. Entre la notion de voir un paysage complètement plat, où rien n'est secret, puisque tout est à portée de vue, et ici, où il y a du relief, où on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté d'une colline, il y a des mystères partout ici dans ce pays. Est-ce que ça t'amène à voir autrement?
Oui, bien sûr, le paysage, c'est très important pour le regard poétique comme on a parlé. Et il y a 2 semaines, j'étais en Laponie, au nord extrême, sur les Tunturi, sur les montagnes là-bas, où c'est encore le paysage est vaste. Il n'y a pas des arbres, c'est du toundra. Et on voit 60 kilomètres du haut de la colline. Et ça m'a inspiré aussi beaucoup. Mais oui, ces montagnes-là sont différentes parce qu'on ne voit jamais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté.
Ça pousse envie d'aller voir ce qu'il y a.
Oui, ça la curiosité, c'est un peu comme... ça peut être une métaphore de la création poétique parce qu'il y a une colline, une montagne, Et on peut aller plus loin pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté.
On peut deviner, on voit quelques parties à l'arrière, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a, mais elle nous interroge, elle nous interpelle.
Il nous force d'imaginer.
Oui. Est-ce que tu as goûté à la clairette de Dee ?
Hier soir.
Et alors, est-ce qu'elle t'a inspiré quelque chose ? Est-ce que les bulles te sont montées à la tête ?
Oui, très facilement et très vite.
Oui.
La clairette, c'était la première rencontre avec la clairette, mais pendant ces 3 semaines, je crois que j'aurai l'occasion d'approfondir la recherche du secret de la clairette.
La Finlande, c'est un pays qui a eu beaucoup de bouleversements au XXe siècle, avec l'occupation soviétique.
Non, la Finlande, en effet, on imagine souvent que la Finlande a été occupée, mais non, ce n'est pas le cas. En effet, la Finlande, c'est un des rares pays en Europe qui n'était pas occupé pendant la Deuxième Guerre mondiale ou après. Mais bien sûr, c'était une période très difficile avec beaucoup de la pression du côté de l'Union soviétique. Mais la Finlande a tout le temps gardé quand même son intégrité, bien que ce n'était pas toujours facile.
Et oui, est-ce que le peuple finlandais a toujours su se démarquer des pays qui l'entouraient ? Et il a une culture propre et puissante déjà, je suppose ?
La Finlande ?
Oui, qu'est-ce qui tient la Finlande ? Qu'est-ce qui tient les gens entre eux en Finlande ? Comment dire ? Est-ce que c'est une manière de vivre ? Est-ce que c'est une manière de voir le monde ? Ou son paysage même qui l'entoure ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, il y a des pays qui tendent à se développer, à courir après un idéal quelconque, hein, que ce soit économique ou politique. Est-ce que la Finlande est un pays qui est un peu un pays en repos ?
La Finlande, c'est un pays protestant et tout marche bien, tout est efficace et il manque un peu de la joie de vivre des fois. Mais en même temps, les Finlandais qui sont efficaces et très pragmatiques dans la vie professionnelle ou comme ça, dans la société, ils ont un autre côté. Chacun d'eux a une petite cabane vers le lac où ils passent leur week-end ou les vacances d'été. Les pieds dans l'eau et sur la terrasse des mukki, la cabane qu'on appelle. Et ils ne parlent pas beaucoup, ils sont très près de la nature de la façon ou autre. Et que le pays a changé vraiment vite. Industrialisé pendant le XXe siècle, très rapidement. Et les gens ont déménagé en ville, en masse. Mais ils ont encore le côté d'un homme de nature.
Moi, quand tu dis que les gens ne parlent pas beaucoup, ça me fait penser à ces films de Korismäki.
Exactement.
Où les personnages sont souvent muets, ils ne se parlent presque pas. C'est ça, là, être finlandais un peu ?
Oui, et même que je parle beaucoup, moi. Alors, dans mon couple, parce que ma copine, elle est française, on a souvent des situations qu'il y a des malentendus parce qu'elle me dit quelque chose. Je ne dis rien parce que je réfléchis et parce que je donne de l'espace pour elle de s'exprimer et tout ça. Des fois, elle prend ça mal et elle imagine autre chose. que c'est très naturel pour nous d'être silencieux, par exemple. Et c'est, on pourrait dire même que c'est, bien que ça peut être bizarre pour vous, alors que ça peut être aussi poli de se taire.
Comme on dit en France, qui ne dit rien consent. Vous, en Finlande, si vous parlez, c'est pour dire des choses essentielles.
Oui, c'est, oui, je crois.
Est-ce que les médias, justement, dominent un peu la conscience finlandaise, quelque part, chez vous? Parce que ça me fait penser un peu à ce débit de mots qu'on nous balance, que ce soit à la télévision ou à la radio. On nous balance des débits de mots où on s'égare, parce qu'on ne comprend plus le fil conducteur de ce qu'on entend. Et à l'opposé, vous, justement, vous êtes plus dans le silence. Et quand les mots surgissent, c'est pour dire quelque chose d'essentiel.
Oui, ça c'est peut-être la tradition, mais bien sûr, les médias et alors de l'information, il y en a partout et il remplit les têtes.
Est-ce que ça influence aussi la manière de s'exprimer?
Oui,
est-ce que les gens parlent de plus en plus maintenant à cause des médias, justement?
Oui, c'est un peu drôle que les Finlandais, qui sont normalement dans leur dans les situations actuelles entre les gens, ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils prennent leur mobile, ils bavardent. Et quand ils s'expriment sur l'Internet, ils commentent des choses. Alors, ça ne s'arrête jamais. Et quelqu'un a dit que, en effet, c'est une culture de la politesse, des distances, que quand on est près des autres, on se tait et on est indirect. Mais quand on a un intermédiaire, alors ça c'est plus naturel de s'exprimer.
Tout à l'heure, tu nous as cité un texte, donc il parle de quoi, ce texte?
Alors, je préfère ne pas commencer à expliquer ça. Je suis désolé.
Est-ce qu'il t'a été inspiré par quelque chose, même simplement? Qu'est-ce qui t'a inspiré ce texte? Sans en connaître la teneur, mais qu'est-ce qui t'a fait pousser à écrire le texte que tu nous as lu tout à l'heure, par exemple?
Ok, je peux vous raconter que un jour j'ai traversé, j'avais dans la tête une phrase que de quelqu'un qu'on aurait besoin des objectifs plus grands dans la vie. Ça, c'est un morceau de langue qui a sonné dans ma tête. Et après, j'ai traversé la place en Helsinki et il y avait un type qui a fait le sermon là, alors venez vers Jésus et tout ça, et il a dit, alors que tu vas renaître sur cette place. Et j'ai pris cette phrase, tu vas renaître sur cette place. Et il y avait une troisième phrase que j'ai pris ailleurs et je les ai combinées comme ça, avec beaucoup de répétitions. Alors que j'ai, en effet, je cherche des morceaux de langue comme ça, un peu partout.
La langue finnoise se prête bien à la poésie telle qu'elle, ou alors un peu comme en France, justement, tu expliques, il y a des déclinaisons, des répétitions, voire même des contresens ou des non-sens. Est-ce que la langue finnoise se joue de ça? Ou alors elle reste quand même compréhensible pour la plupart des personnes qui l'écoutent?
Le finnois, c'est un instrument très... C'est un instrument en même temps que le finnois, comme instrument, c'est un vrai défi pour un poète, mais ça, en même temps, ça donne beaucoup de possibilités parce que c'est une langue agglutinative. Ça veut dire qu'on n'a pas de prépositions, mais on rajoute des suffixes dans les mots. Et que les mots peuvent devenir très très longs à cause de ça. Et bien sûr, ça devient très chargé. Et on peut, ça peut faire souffrir le rythme du texte. C'est un exemple. Et pour maîtriser, pour connaître la langue, pour pouvoir écrire... sans charger trop le texte, ça c'est un vrai défi pour un poète. Et en plus, la cadence est un peu monotone parce qu'il y a toujours l'accent, c'est toujours au début de la phrase, du mot. Mais de l'autre côté, le grammaire du finnois, le syntaxe du finnois, c'est très très riche. Et souvent, quand on traduit un texte, par exemple en suédois, qui est une langue très très comment dire, logique et pure, alors on perd quelque chose de la richesse du texte original parce que on n'a pas la richesse du syntaxe, pareil, en suédois. Oui, mais c'est... Je dirais que le finnois, c'est un très bon instrument pour un poète parce que c'est si difficile à maîtriser. Ça fait de la résistance, tout le temps.
La résistance à quoi, par exemple?
Alors, je me rappelle un poète, Paavo Haavikko, il a dit que, par exemple, l'espagnol ou le russe, que le poète qui écrit en russe ou en espagnol doit faire attention parce que tout est si facile à exprimer en ces langues. Et tout, tu peux dire n'importe quoi et c'est joli. C'est beau. Mais quand on a une langue comme ça, alors que si tu écris n'importe quoi, c'est chargé, c'est lourd, c'est compliqué, c'est impossible. Et pour ça, tu dois faire d'efforts et d'efforts et d'efforts. Et c'est bon, c'est bien pour un poète.
Et dans tes textes, chaque mot est une image, une pensée?
Je ne sais pas, mais de toute façon, j'essaie d'écrire autant qu'il ne reste plus des mots qui ne sont pas essentiels. Alors j'essaie d'enlever tout qui n'est pas essentiel. Mais j'ai un nom qui est presque impossible pour les Français de prononcer. Alors, ça me fait plaisir d'entendre toutes les variations possibles.
Et oui, et voilà. Et d'ailleurs, le finnois, cette langue, elle est née de quelle origine? Elle est de quelle origine? Elle est typiquement de cette contrée, dans le Grand Nord?
Non, parce qu'en effet, En effet, il y a seulement trois langues en Europe qui sont de la même souche. C'est le finnois, l'estonien et le hongrois. Et toutes les autres langues en Europe sont indo-européennes. Et par exemple, le français, et l'Allemagne, et le suédois et le russe appartiennent dans la même famille, plus ou moins proche. Mais le finnois, c'est un cas à part.
Est-ce que ça m'est arrivé déjà, ça aussi, d'écouter un film en VO, en version originale, de fermer les yeux et d'essayer de comprendre ce qui se dit. Et il y a les sous-titres, hein, parfois. Et en se laissant imprégner par la parole, la voix, on a presque l'impression de comprendre ce qui se dit. Est-ce que ça, c'est une chose que tu as abordée ? Ou c'est une chose qui t'a peut-être interpellé ?
Qu'on comprend
quelque chose, une langue qu'on ne connaît pas, mais dans la manière comme elle est dite ou utilisée, oui. On a l'impression de comprendre. Et des fois, quand je regarde le sous-titre, ça ressemble presque à ce que je pensais. Est-ce que c'est possible?
Alors, je trouve que, parce qu'en finnois, il n'y a absolument pas de mots transparents. Si je vous donne un texte écrit en finnois, il n'y a peut-être pas un seul mot que vous reconnaissez. Mais en même temps, bien sûr, quand on parle, souvent quand on voyage et on n'a pas d'une langue commune, si on commence à parler à sa propre langue, alors l'expression des sentiments, l'expression corporelle devient plus naturelle et de cette façon, on peut comprendre quelque chose d'universel.
Jyrki, merci d'être passé.
Merci de m'avoir invité.
Au revoir.
Interview.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.